la Suisse, pays du chocolat. Et pourtant, vous aurez beau chercher, aucune trace de plantation de cacaoyer à Vevey, Bâle ou Neuchâtel. Le chocolat, une douceur coloniale au passé amer, on en discute dans mon œil.
Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.
Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à un produit que tout le monde adore, le chocolat. Pourtant son histoire est aussi celle de l'esclavagisme. Comment la Suisse, un petit pays a priori sans colonie, a-t-elle fait pour devenir le berceau de grandes multinationales du chocolat? Et ces petits carrés ont-ils toujours un goût amer d'exploitation? J'en discute avec Dominique Ziegler, bonjour.
Bonjour.
Tu es auteur et metteur en scène basé à Genève, tu défends un théâtre populaire et engagé. Ta dernière pièce raconte l'histoire tourmentée du chocolat, elle s'appelle « Choc, la friandise des dieux ». Choc pour le chocolat bien sûr, mais aussi pour le passé choc de la Suisse.
Le passé et le présent, parce que tout ce que j'ai découvert au cours de mes recherches pour la documentation autour de cette pièce, c'est que c'est horrible du début à la fin, enfin au présent actuel. C'est-à-dire que le chocolat, le cacao d'abord, comme matière première, est une matière première qui est née dans l'esclavage et qui aujourd'hui perdure dans un esclavage sous une autre forme, si tu veux. On est passé de l'esclavage pur et dur à une forme d'esclavage salarié, entre guillemets, qui dit pas son nom. Donc, en fait, le choc, il est multiséculaire, multigéographique, parce que ça touche l'Amérique latine, l'Afrique, maintenant ça touche aussi une partie de l'Asie, et ça touche évidemment l'Europe dans la mesure où nous, on est les bénéficiaires de cet esclavage moderne, comme on a pu être les bénéficiaires de cet esclavage passé.
On va rentrer dans les détails de ce que tu appelles un esclavage moderne. Ouais. Mais t'es pas le seul à remonter le temps pour faire l'histoire du chocolat. Les fabricants de chocolat le font aussi, comme par exemple au musée Lindt, que je te propose de visiter en bonne compagnie.
Welcome to our chocolate discovery tour.
Wow.
Our cocoa trees.
Amazing. Yeah. Quite the jungle.
Yeah, this is where all the chocolate starts. No trees, no beans, no chocolate.
Got you. You're all set. Yeah, Roger's coming at 10 tomorrow. I just really hope I don't faint when I see him. That would be so embarrassing. Yeah.
Ladies and gentlemen, the Swiss pioneers. They sure did make our lives a little sweeter.
They did.
The origins of chocolate go back more than 5,000 years.
Such a long history.
Malheureusement, je pense pas que tu as eu la chance de visiter le musée avec Roger Federer en personne, mais c'est la visite d'un musée comme celui-ci qui a donné naissance au projet de cette pièce.
Voilà, à l'origine, c'est une commande d'écriture du théâtre orchestre Bien Soleur, qui, comme son nom l'indique, est un théâtre bicéphale entre Bien et Soleur. C'est les deux théâtres principaux des villes de Bien et Soleur. Et la directrice, qui s'appelle Katharina Rupp, est allée visiter justement ce musée. Et elle en est ressortie totalement choquée, encore une fois, horrifiée par les lacunes que ce musée propose, enfin qui émanent de ces expositions diverses. Donc du coup, moi, je suis aussi allé le voir. Et sur la fresque qu'on vient de voir, il y a tout un parcours supposé du cacao, mais bizarrement, il n'y a aucune trace d'esclaves, ce qui est quand même un problème majeur, puisque comme je l'ai dit en introduction, c'est d'abord un produit esclavagiste. L'histoire du cacao et l'histoire de l'esclavage sont intimement liées.
Pour toi, cette histoire, elle est négationniste.
C'est du négationnisme pur et dur. Et du coup, Katharina m'a demandé de faire des recherches par rapport à ça et d'écrire une pièce sur ce sujet. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai commencé à lire des livres, à faire de l'open source. Et les sources sont assez rares finalement. Il y a des histoires du chocolat enjolivé, comme au musée Lindt, hein, où on parle de Marie-Antoinette, on parle de jolies recettes, etc. Mais on ne parle pas du vrai cœur du problème, à savoir encore une fois le double cœur, je dirais. D'abord le génocide des Indiens d'Amérique centrale, puisque c'est d'abord la boisson sacrée des Aztèques, et que Cortés arrive, il massacre les Aztèques, les Indiens d'Amérique centrale, et ensuite prend le cacao et l'amène à la cour de Charles Quint, et ça devient une boisson, c'est d'abord sous forme de boisson le cacao, le chocolat, ça devient une boisson aristocratique. Et ensuite, une fois que les Indiens sont décimés, on augmente le commerce transatlantique, hein, et on fait venir des esclaves en masse depuis l'Afrique, et les esclaves vont cultiver le cacao. Donc on est vraiment au cœur de deux drames qui ont façonné l'histoire humaine, et dont les peuples concernés payent encore les conséquences aujourd'hui. Donc, quand on a un musée comme ça, qui fait simplement l'impasse sur ces sujets, On est dans du négationnisme, et c'est un négationnisme, je dirais, qui touche jusqu'à la psyché profonde de la Suisse en général, de l'État suisse, des Suisses. C'est notre emblème national, c'est notre produit national avec le fromage qui, lui, par contre, est plus légitime. Hein, mais il n'y a pas, comme tu l'as dit en introduction, pas un cacaoyer qui pousse sur le sol suisse. La matière première est faite dans des conditions désastreuses, et Publicaï a fait des très bons rapports là-dessus. J'invite vraiment les gens à aller voir la petite brochure très simple, La face obscure du chocolat, où on comprend exactement la manière dont le chocolat est produit et la manière dont des grandes multinationales, essentiellement basées en Suisse, l'accaparent pour en faire une espèce d'appropriation culturelle, on va appeler ça comme ça, mais surtout une appropriation économique, en disant, en récoltant les bénéfices de cette exploitation, et puis en mettant une espèce de stempel, de tampon de produit national, ce qu'il n'est pas. Hein. C'est je crois qu'on doit être un des rares pays à avoir un produit national qui n'est pas basé sur une matière première autochtone, qui plus est cultivé dans des conditions vraiment scandaleuses.
Dans laquelle on met des photos de vaches, de montagnes, de tous les symboles.
Etc., etc. Donc, c'est une arnaque qui fonctionne bien, et la pièce, elle est faite pour un peu éclairer le public sur ces questions. Et c'est aussi un geste, évidemment, de solidarité avec nos sœurs et frères africains.
Pour avoir un petit aperçu de ce à quoi ressemble ta pièce, je te propose de regarder un petit extrait.
C'est bon, là, on a compris. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre des trucs sur le chocolat, pas sur l'esclavage. Tu n'as pas encore compris que c'est la même chose? Bon. Karl Marx a dit, le capital vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores.
Ouais, Marx. Un Marx, c'est sa repère.
Bon, c'est quand qu'on arrive en Suisse? Parce que là, on n'a pas toute la nuit. Nous, ce qu'on veut, c'est les pionniers du chocolat suisse. Des histoires positives qui se passent en Suisse.
Bon, ça résume assez bien ce dont on vient de parler, mais moi, cette phrase, elle m'a beaucoup interpellé au début du spectacle. Nous, on veut apprendre des choses sur le chocolat, pas l'esclavage. T'as pas compris que c'était la même chose? C'est la même chose?
C'est exactement la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cacao, c'est d'abord un produit qui est volé aux Aztèques, et puis qui après, une fois que les colonies espagnoles vont s'étendre dans ce qu'ils vont appeler l'Amérique, ils vont prendre, c'est une plante autochtone d'Amérique, donc ils vont prendre des plants du Venezuela, etc., et ils vont faire des grandes plantations à destination de l'élite européenne. Donc ça devient un produit commercial de luxe et à destination des élites européennes. Hein, c'est une manière pour Charles Quint, puis ensuite pour Louis XIII et pour toutes les cours de montrer leur supériorité sur les autres cours. C'est vraiment quelque chose de très prestigieux. C'est le caviar de l'époque. Si
mais
vous
c'est
voulez.
Un produit noble qui n'est c'est pas encore populaire.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoire dans l'histoire parce que finalement c'est devenu un produit de consommation de masse, mais très récemment. Et donc, une fois que les Indiens sont décimés, on fait venir massivement des Noirs, du Ghana, d'Angola, etc., etc. Donc, du coup, il faut lire beaucoup l'histoire de l'esclavage pour faire des recoupements. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est évidemment la même histoire. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en suivant le cacao, j'ai suivi l'histoire de l'esclavage, et c'est aussi l'histoire de la création du racisme. Parce que, moi je suis comme Socrate, je sais que je ne sais rien, c'est-à-dire que j'avais évidemment des notions, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net, mais je n'imaginais pas à quel point ça englobait toute une série de thématiques vitales, je dirais, importantes pour tout ce qu'on vit ensemble, pour l'histoire humaine. Et j'ai toujours cru que l'esclavagisme était né du racisme, c'est-à-dire qu'on avait nié aux Noirs, par essence raciste blanche, leur humanité, et on les avait mis en esclavage, et c'est l'inverse. C'est l'esclavage comme nécessité économique qui a nécessité de créer le racisme. C'est-à-dire, à un moment, on a une scène dont je suis assez content d'ailleurs, où à l'époque, on avait des peuples, les Batsangi, les Ashanti, etc. Il y avait une diversité de peuples qui était aussi reconnue par les Européens. Hein. Ils négociaient avec différents peuples. Et puis, quand l'esclavage a commencé à devenir une affaire massive et vitale pour les intérêts économiques européens, on a réduit tous ces peuples, toute cette disparité culturelle, cette multiplicité, sous l'appellation de noir. Et donc, on a créé le noir. Et en créant le noir, on a évidemment créé en miroir, le blanc. Donc, on est quelque part le monde moderne est toujours l'enfant de l'esclavage. Et en suivant cette matière première, le cacao, on suit cette histoire qui nous façonne encore aujourd'hui et toutes les polémiques qu'il y a autour de la statue de Purie à Neuchâtel, autour des réparations pour les esclaves, les gens qui disent « ouais, mais c'est exagéré, c'est fini ». Non, on est vraiment dans la droite ligne de tout ça. Donc c'était important que cette pièce, elle fasse tout le parcours depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui.
Pour faire le lien, parce que ça recouvre vraiment plusieurs siècles, et ce que j'ai trouvé assez étonnant, moi, c'est qu'en fait, le cacao, c'est pas un produit originaire d'Afrique de l'Ouest à la base, il a été imposé.
Voilà, ça c'est un autre scoop, c'est qu'au moment où l'esclavage commençait à péricliter, surtout grâce aux révoltes des personnes concernées, parce que là aussi, il y a encore un négationnisme, une réécriture de l'histoire, on nous apprend toujours que l'abolition de l'esclavage est le fait d'esprits éclairés, blancs, de gens des Lumières, etc. Alors que c'est essentiellement les révoltes à Haïti, les révoltes au Suriname...
Qui sont dépeintes dans ta pièce.
Alors ça, c'est un grand problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas pu tout dépeindre. Donc c'est une pièce à la fois édifiante, mais à la fois frustrante pour moi, parce que si j'avais dû écrire la vraie pièce, elle aurait duré 10 heures. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les répressions au Suriname ou à Curaçao, où c'est des Suisses, des militaires suisses, qui ont réprimé extrêmement violemment les esclaves. Donc l'implication suisse, elle n'a pas toujours été qu'économique, elle a aussi été militaire. J'ai dû virer plein d'épisodes, il y en avait une aussi avec un corps expéditionnaire dirigé par un Appenzellois à Haïti qui se fait laminer puis qui revient. Voilà, donc l'implication de la Suisse est forte et j'ai oublié ta question.
Ah, moi aussi j'ai oublié, c'est pas grave, on passe à la suite.
Mais reviens en arrière parce que j'avais quelque chose à développer, c'était quoi?
C'était... le cacao comme oui,
voilà,
produit africain.
Exactement. Et puis, donc, une fois que l'esclavage est aboli, entre guillemets, je vais faire encore une petite digression, puis tu me rappelleras, j'ai vu le film Amistad de Spielberg, mm-hmm. qui est très bien sur la représentation de la violente esclavagiste, mais où on voit des gentils Anglais qui font la chasse aux chasseurs d'esclaves et qui deviennent des abolitionnistes le cœur sur la main, alors que c'était quand même les champions de l'esclavage. Donc, il y a des relectures, il y a un travail... d'histoire vraiment à faire et à refaire. Et pour ça, il y a des lectures très précieuses, comme celle de Aline Helg, Les routes de l'esclavage. Il y a le livre de Hans Fessler, qui est vital, une Suisse esclavagiste. Le livre de Bouddha Eternad, Yannick Schoffelbühl et Thomas David, La Suisse et l'esclavage des Noirs. Enfin, il y a une série de livres pointus, pas très grand public, que j'invite à lire.
Bon, maintenant, on mettra les références
voilà,
en description de cette vidéo.
Maintenant, j'arrive à la suite de l'histoire. Une fois que l'esclavage périclite, il faut quand même continuer à produire du cacao. Donc, les Blancs, les Européens, quelle est leur idée géniale? Comme on ne peut plus importer d'esclaves en Amérique, eh bien, on va simplement exporter le cacao et le faire cultiver aux nouveaux esclaves, on va appeler ça différemment, aux personnes colonisées d'Afrique de l'Ouest, essentiellement. On va implanter le cacao là-bas et obliger les gens à le cultiver. Et c'est ce qui s'est passé d'abord à Sao Tomé via la colonie portugaise, et puis surtout, c'est ce qu'on montre dans la pièce, en Afrique de l'Ouest, et en particulier en Côte d'Ivoire, les colons français, avec leur nouvelle doxa de comment dire, qu'est-ce qu'il disait Jules Ferry déjà, instruire les peuples inférieurs, hein, l'idée civilisatrice du colon français qui vient aider le pauvre africain alors qu'il a une culture multiséculaire certainement supérieure et à la sienne. Hein, on voit des troufions arriver et obliger, à la fin du 19e siècle, des Ivoiriens, des villageois, à cultiver le cacao. Et ça, c'est la vérité absolue.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 70% du cacao cultivé se fait en Afrique de l'Ouest.
Voilà, essentiellement 40% en Côte d'Ivoire et une autre grande partie au Ghana, mais aussi au Cameroun. Voilà, et là aussi, j'ai dû faire le choix de la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays emblématique. Ça me permettait aussi d'arriver sur le phénomène du post-colonialisme qu'on a appelé la France-Afrique, mais on a aussi un petit passage sur le Ghana, parce que c'est un pays important, où on avait aussi l'implication des Suisses, notamment via une forme de soft power, qui était le pouvoir religieux. Et on a une scène avec ce qu'on appelle la Basler Mission, la mission de Bâle, qui allait évangéliser dans les forêts les Africains, et évidemment, dans le but évidemment de les de les induire dans la direction de la civilisation blanche, des valeurs chrétiennes, etc. Et puis qui leur faisait cultiver également le cacao, qui sont parmi les premiers à avoir implanté le cacao au Ghana. Donc on voit encore une fois que la Suisse, la France, l'Angleterre, enfin toutes les puissances européennes sont vraiment ceux qui ont imposé la culture du cacao en Afrique.
Et t'égratignes aussi le nom de grandes familles suisses aussi, avec Jean Tremblay de Genève, la famille de Pury et Pourtalès de Neuchâtel, les Tournaisen à Bâle. Des Suisses avaient donc des intérêts dans les colonies d'outre-mer et même faisaient de l'argent sur le dos des esclaves?
Mais des Suisses avaient des billes dans la traite transatlantique. Il y a une grande famille baloise qui s'appelle Burckhardt, qui avait des bateaux entiers ou qui étaient comment dire, des bateaux esclavagistes avec des... Par exemple, dans le livre de Hans Fessler, une Suisse esclavagiste, il parle d'une frégate qui s'appelle, sauf erreur, le Cultivateur, où il y a une révolte d'esclaves et Burckhardt a des billes dedans et est complètement atterré parce qu'il perd de l'argent. Et il y a le détail de la révolte réprimée extrêmement violemment, qui est du nazisme sur mer, on va dire. Et tous ces gens sont juste très ennuyés et très choqués des pertes d'argent qu'ils subissent. Et là, on a des exemples extrêmement multiples, mais que les gens connaissent pas, que moi-même je connaissais pas. Si je m'étais pas intéressé au sujet, j'aurais jamais connu cette réalité. Et donc, ce dénommé Hans Fessler, qui a écrit La Suisse esclavagiste, il a un site, toussaintlouverture.ch, avec, sur ce site, faut un peu chercher, c'est un peu compliqué, une page qui s'appelle CARICOM, quelque chose comme ça. Et là, il a la liste de toutes les familles suisses et de tous les endroits, Suriname, Curaçao, Venezuela, de l'implication de chaque famille suisse dans chaque endroit. Donc, il a fait un travail titanesque. Je sais pas comment il a fait, mais pour moi, c'est un travail que tous les Suisses devraient connaître parce que c'est notre histoire.
Et c'est quoi les conditions aujourd'hui des petits producteurs de cacao?
Le gros de la chaîne, c'est le suivant. On a des citoyens, des villageois ghanéens, ivoiriens, camerounais, etc., qui cultivent d'extrêmement petits lopins et puis qui doivent vendre leurs fèves à un prix qui est déterminé par les marchés européens ou américains. Donc, ils n'ont aucune mainmise sur ce qu'ils produisent. Et ce prix qui leur est imposé est totalement dérisoire. Il touche, je crois, 6% de toute la production. La moitié des cultivatrices et cultivateurs vivent sous le seuil de pauvreté. Mmh. Et l'autre moitié, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Et à côté de ça, il y a des gens qui font du chocolat éthique. C'est des tout petites structures. Mais là, à la sortie du spectacle, à Soleure, justement, on a une boîte qui travaille directement avec les Ghanéens, qui produisent le chocolat au Ghana, et ainsi de suite. Moi, je connais un type à Genève qui est un Péruvien qui travaille avec les Indiens du Pérou, donc c'est intéressant, c'est le retour aux sources.
Et vous en proposez entre la première et la deuxième partie du spectacle.
Voilà, on en propose à l'entracte, mais il faut aussi se méfier de tous les labels bio dans les supermarchés, etc., parce qu'il y a aussi une arnaque là-dessus. On va dire, pour être très primaire et succinct, plus c'est gros, plus c'est industriel, plus il y a de fortes chances que le cultivateur soit lésé et que ce soit le fruit de l'exploitation. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup se renseigner, mais c'est valable malheureusement pour d'autres matières premières.
Mais c'est possible d'acheter du chocolat éthique.
C'est possible d'acheter du chocolat éthique, mais il faut faire une petite démarche. Il faut chercher. Il ne faut pas se contenter du label Fairtrade bio qu'on nous propose à la Migros ou ailleurs.
Je ne l'ai pas mentionné, mais cette pièce, elle est bilingue, français-allemand. Ouais. Et elle rassemble aussi des comédiens et comédiennes originaires de plusieurs pays différents, la Suisse, la France, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Et il y a une volonté derrière le mélange de langues.
Bien sûr. Bon, d'abord, il y avait une commande, comme je l'ai dit, du théâtre orchestre Bienne Soleur. Et Bienne, comme vous le savez, c'est une ville bilingue. Donc, il y avait une volonté aussi à l'intérieur de la Suisse de casser un peu le Rösti Graben qui existe vraiment en matière de théâtre. C'est deux mondes qui sont très, très, très étanches. Et ça, c'est dommage. Donc, nous, on essaye. Moi, j'ai eu deux pièces déjà qui ont été montées en Suisse allemande, au théâtre orchestre Bienne Soleure. Et puis là, c'est la première fois que j'ai une commande comme metteur en scène. Et une des commandes, elle est locale. Elle est de un peu plus fédérer les cultures romandes et suisse allemande.
Mais il y a des sous-titres pour rassurer les auditeurs.
Alors, pour rassurer les potentiels spectatrices et spectateurs, c'est sous-titré. Quand ça parle en allemand, il y a les sous-titres en français et inversement. Mais comme j'ai insisté, et j'avais même pas besoin d'insister, c'était presque inclus dans l'idée de base, il fallait que pour une thématique qui touche autant l'Afrique, on ait au moins une moitié de distribution qui soit africaine, ce qui est le cas. Et puis après, on a cherché des acteurs qui soient d'origine africaine ou africain bilingue, et on n'en a pas trouvé beaucoup. Du coup, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté et j'ai amené deux acteurs que j'avais vu jouer, que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie toujours beaucoup, Fidel Ba et Yacine Zoukbo, qui sont d'origine ivoirienne, ce qui tombait bien parce qu'on a eu des très bonnes discussions autour de la thématique. Et puis, j'ai cherché l'actrice principale, celle qui guide le beauf qu'on a vu en extrait, très bien interprété par Jean-Alexandre Blanchet. C'est une Camerounaise, une grande actrice camerounaise qui s'appelle Yaya Mbile. Et puis, on a une quatrième personne suisse d'origine africaine qui s'appelle Clovis Kazanda, d'origine du Congo Kinshasa. Et voilà. Et toutes ces personnes, à un moment, plus on avançait, plus on trouvait que c'était important que leur langue soit représentée, que les dialectes soient représentés. Ce qui fait qu'on a aussi une multitude de langues issues de différents peuples africains. Pas seulement des leurs, d'ailleurs, comme les Africains ont une connaissance beaucoup plus vaste que la nôtre des différents dialectes, des différentes cultures africaines, on a profité pour parler Ashanti, pour parler de Baolé, pour parler différents langages, et ça aussi, on le traduit. Donc, la commande bilingue romano-germaine de départ, elle s'est transformée en une espèce de pièce multiculturelle que les gens arrivent très bien à suivre. Je pense que ça rajoute au rythme et à la richesse de la pièce.
Je te propose de regarder l'un des comédiens que tu as cité, Fidel Ba, en train d'incarner Louis XIV. Dans ta pièce.
Mais nous tenons des îles bien en main. La Guadeloupe, la Martinique, l'île de la Tortue. Pour les faire prospérer, une seule solution. Des esclaves, encore des esclaves.
Il n'y a aucune raison que la couronne d'Espagne décide de qui a le monopole de la traite des Noirs. Les Noirs sont à ceux qui les attrapent.
Nous avons établi de nouveaux comptoirs sur le côte d'Afrique. Mais là aussi, la concurrence est rude, Majesté. La chasse aux Noirs bat son plein. Les Hollandais et les Anglais ont une grande longueur d'avance.
Attrapez plus d'esclaves. Emmenez-les sur nos îles des Antilles. Faites-les cultiver ce fruit étrange. Le cacao. Ma femme adore la boisson qui en est issue. Elle ne peut s'en passer.
La chasse aux Noirs bat son plein. C'est des personnes racisées qui prononcent ces paroles. Il y a une intention dramaturgique.
Ça s'est présenté comme ça. L'idée, c'était que tout le monde joue un peu tous les rôles qui pouvaient leur convenir. Et que ça soit justement des personnes noires qui jouent des monarques européens. Là, on a Colbert et Louis XIV. C'est pas une idée préconçue où je me suis dit « Ah, j'ai un plan génial ». Ça s'est présenté comme ça, on a essayé, puis on a vu que ça fonctionnait, que ça racontait vraiment finalement l'absurdité du racisme. Voilà, le fait que Louis XIV ou Colbert, qui va faire le Code Noir, parle justement de la mise en asservissement des Noirs, ça nous a paru un jeu de miroir assez intéressant dans la mesure où, encore une fois, ça dénonce la stupidité majeure de ce genre de concept. Et puis aussi, c'est simplement parce que ce sont des très bons acteurs. Ce sont d'excellents acteurs et Fidel, comme Clovis, dans ses rôles de monarque, il dégage une classe inouïe et il correspond vraiment tout à fait au rôle. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant dans l'extrait que vous avez montré, c'est que justement, ça fait le complément ou le miroir inversé de l'historiographie du chocolat tel qu'on nous la présente dans les musées. Quand Fidel Louis XIV dit « Ma femme adore la boisson qui est issue du chocolat », on se retrouve dans ces histoires de Marie-Thérèse qui prend le chocolat à la cour, c'est charmant. Simplement, juste avant, on a raconté « Apportez plus d'esclaves, faites-les travailler, etc. etc. » Et puis on raconte aussi la concurrence, parce que c'est ça qui est intéressant dans la pièce et dans cette histoire, c'est qu'on est déjà dans la mondialisation avant l'heure. On est déjà dans la concurrence entre les Hollandais, les Anglais, dans la course au marché, etc. Finalement, s'il y a une morale qu'on doit tirer de tout ça, c'est que rien n'a changé.
Rien n'a changé. Comparé à aujourd'hui, où 40% du chocolat mondial est vendu par une poignée d'entreprises, Nestlé, Mondelez, Kraft Mars, Ferrero, Hershey et Lindt, et 2/3 du cacao est négocié par des grandes sociétés de trading, Barry Calbo, Cargill et Olam International. Tu fais beaucoup référence à ces géants dans la pièce.
Alors, je te corrige juste sur la dernière donnée, c'est pas forcément des traders, c'est ceux qui transforment le cacao. C'est ceux qui ont vraiment la matière brute, qui vont justement après vendre aux six autres que tu as mentionnés. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant de savoir que pour un produit aussi populaire, trois grosses multinationales tiennent 65% du marché, de la pâte et des différents produits qui vont permettre ensuite aux détaillants de faire du chocolat. C'est une espèce de... Ouais, de bon, il faut que je fasse attention aux termes, mais une espèce de mainmise, on va dire, sur un produit. Et donc, ça implique que les prix aussi sont en grande partie entre leurs mains et celui du marché, des traders. On parle aussi des fluctuations boursières, du fait que le cacao, comme toutes les matières premières, est un objet spéculatif. Mmh. Et encore une fois, au bout de la chaîne, ou au début, la chaîne avec un double jeu de mots, ce sont les cultivateurs africains, les villageois, etc. Et je dirais encore une chose, on suit le fil du cacao tout le long de la pièce, mais il y a un autre fil qu'on suit, c'est celui de l'enfant africain. C'est-à-dire, on suit un enfant africain qui soit un enfant au Ghana mis en esclavage, un enfant en Côte d'Ivoire victime du colonialisme français mis au travail forcé, parce qu'ils ont appelé ça le travail forcé, c'était le nom officiel au 19e siècle. Et puis, on le suit encore aujourd'hui dans les plantations de Côte d'Ivoire, enfant esclave du Burkina ou enfant du cultivateur ivoirien. Voilà, ça c'est vraiment le fil le plus important. Il est interprété brillamment par un magnifique acteur qui s'appelle Hyacinthe Zoukbo, qui est sans âge et qui peut jouer et traverser les siècles avec beaucoup de talent et d'émotion.
Merci Dominique Ziegler d'être venu.
Merci à vous de l'invitation.
C'était Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt.
Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye.